Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La République laïque et les religions en Algérie et au Maroc.
L'œuvre d'intérêt national que constitue l'hôpital franco-musulman témoigne d'une éloquente façon que la France entend assumer toutes les charges de solidarité que lui impose son empire nord-africain. Des réalisations comme celle-là prouvent les véritables intentions de ceux qui président aux destinées de la France, et nous demandons aux populations musulmanes de voir dans l'ouverture de ce magnifique établissement une manifestation nouvelle de la sollicitude de notre pays et de son gouvernement pour leur avenir, à l'aube et sous la protection de la mère patrie.
Au moment de l'ouverture de l'hôpital de Bobigny en 1937, nul n'envisageait que les musulmans d'Afrique du Nord feraient souche en France. Pourtant, le nombre des Français musulmans était déjà comparable à celui d'aujourd'hui. Il est vrai qu'à l'époque, ils résidaient non de ce côté, mais de l'autre, de la Méditerranée. L'Algérie n'était-elle pas composée de 3 départements ? Aujourd'hui, il est exigé des musulmans de France l'acceptation de la laïcité, caractéristique intangible de la République. Cependant, il convient de savoir que la Troisième République pratiqua, elle, une laïcité à géométrie variable. Dans ce qu'on appelait la métropole, se jouait et se rejouait sans cesse la guerre des deux Frances, la catholique et la républicaine. Mais dans les colonies, les autorités naviguaient entre les opportunités. Les mêmes qui à Paris applaudissaient l'expulsion des congrégations étaient bien contents de voir leurs membres gagner le Levant, l'Indochine, l'Océanie ou l'Afrique noire. En Afrique du Nord, le pragmatisme imposait de pactiser avec l'islam, tout en l'encadrant évidemment. C'est donc en Algérie, en dépit de la loi de séparation qui resta lettre morte, la République payait quelques centaines de muftis et d'imams. Au Maroc, Lyautey prônait de laisser s'écouler sans filtre aucun la profusion de sacrés qu'emmagasinait l'islam chérifien. Une longue expérience de l'islam fut ainsi accumulée, que nous avons eu peut-être tort d'oublier.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Pierre Vermeyren, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Chez Belin, un livre fort intéressant, pionnier à bien des égards sur la politique coloniale et ses aspects religieux. La France en terre d'islam. Allez, on peut attaquer tout de go. Les Français d'aujourd'hui, dites-vous, les enfants du baby-boom et leurs descendants sont très satisfaits de leur rationalisme. Ils croient avoir tourné la page du religieux et...
Et pourtant, le religieux surgit effectivement, comme on le voit avec l'actualité récente. Il n'a jamais en réalité disparu, simplement on a voulu l'oublier. Et il ressurgit d'une manière tout à fait inattendue, et c'est un peu la justification de ce livre. Je ne m'intéresse pas seulement à l'islam, mais c'est vrai qu'il ressurgit en partie, notamment sur la question de l'islam et des musulmans. Et je bondis souvent quand j'entends que la France découvre l'islam, alors qu'elle a une très longue pratique politique religieuse en ce domaine. Et c'est un des objets de ce livre.
C'est une nouvelle rencontre à laquelle on est peut-être beaucoup moins préparé que ne l'étaient les Français du temps des colonies. On va commencer par un chapitre algérien, si vous le voulez bien, Pierre Vermeyren. En 1830, il y a eu le galop d'essai de Bonaparte en Égypte. Ses soldats avaient fini par provoquer l'irritation des autorités religieuses au Caire. En 1830, le régime de la Restauration décide de prendre Alger. C'est d'abord une occupation restreinte. Après 1840, c'est la décision de la conquête pleine et entière. Il va passer par la guerre totale. Oui. Ça serait bien d'ailleurs que les Français sachent aussi ce qu'était la guerre totale en 1840-1847.
Oui, une guerre sans pitié, politique de la terre brûlée. Ça n'empêchait pas Bugeaud et Abdelkader de discuter, notamment par courrier et messager interposé, de manière très élégante et civilisée. Mais sur le terrain, c'était une guerre extrêmement violente.
Parce que d'Abdelkader, qui a pris la tête de la rébellion et proclamé le djihad, Bugeaud disait, c'est une espèce de prophète, l'espérance de tous les musulmans fervents.
Les Français ont trahi leurs paroles. Le duc d'Orléans et le maréchal Vallée ont traversé les portes de fer et violé mon territoire. J'ai écrit au roi de France, mon Philippe. Il ne m'a même pas répondu. Mes califats ont voté la guerre sainte.
C'est une erreur. La France est la plus forte. Elle a des soldats, des canons, des bateaux.
Je n'ai pas peur. Dieu est avec moi.
Le musulman est heureux de mourir pour sa foi. Le paradis est à l'ombre des épées, dit le Coran.
Abdelkader a brandi contre nous le drapeau de la guerre sainte. Il a juré de nous jeter à la mer. Il nous impose une guerre cruelle et sans merci à travers tout le pays.
Après tout, c'est nous qui envahissons son territoire.
Nous avons affaire à des fanatiques religieux. Et il nous faut les soumettre.
La guerre d'Abdelkader, dites-vous, Pierre Vermeeren, c'est une guerre confrérique. Ce que découvrent les Français, c'est l'existence et la force des confréries.
Bien sûr, parce que l'Algérie jusque-là était gouvernée par les Turcs, par les Ottomans. Or, dès qu'ils débarquent à Alger et dans les grandes villes côtières, les Français mettent tous les Turcs dans des bateaux, les renvoient à Istanbul. Et du coup, les 3 millions de musulmans d'Algérie se retrouvent sans leadership religieux, politique, militaire. Et ils vont s'emparer eux-mêmes de la guerre. Et les tribus du sud-ouest de l'Algérie vont choisir un jeune chef de guerre en 1832, qu'elles vont proclamer chef du djihad avec l'aval du sultan du Maroc en 1832. Et c'est un homme, effectivement, un jeune homme, qui est d'une grande famille à la fois chérifienne et confrérique. Et c'est au titre de la confrérie Kadiri qu'il va diriger cette guerre de 15 ans contre la France.
Les confréries, c'est difficile de les fédérer longtemps en même temps. C'est une des explications de la défaite d'Abdelkader, en même temps que la force de l'armée française est bien plus nombreuse.
Absolument, il n'a jamais réussi à fédérer plus des deux tiers de l'Algérie. Néanmoins, dans ses bases. Et puis, il a dû lutter effectivement contre d'autres confréries qui n'étaient pas du tout d'accord, qui étaient alliés aux Français ou qui étaient alliés au sultan ou qui étaient neutres, notamment les confréries de l'Est. Voilà, donc c'est une guerre difficile avec des moyens faibles, néanmoins galvanisés par ces puissances religieuses soufis. On a eu une guerre de partisans extrêmement dure.
La mémoire d'Abdelkader demeurera en même temps que s'enfouira l'islam écrasé apparemment. Je voudrais que. Puisqu'on ne va pas parler que de l'islam, vous nous expliquiez maintenant, Pierre Vermeeren, quelle était la politique de l'État français vis-à-vis de l'impatience qui agitait les catholiques. C'est les hautes eaux du catholicisme sous la Troisième République qui voulaient convertir les musulmans d'Algérie.
Oui, les militaires se sont toujours mis en travers de volonté de conquête religieuse de l'Algérie. Et puis, à la fin du Second Empire et au début de la République, il y a eu un espace, un interstice, dans lequel sont nés les Pères Blancs. C'était le moment de la réconciliation entre la Vigerie et la République.
Le cardinal Lavigerie, c'est le fondateur des Pères Blancs et c'est l'archevêque d'Alger.
Absolument, qui avait été archevêque à Nancy. Et il a créé donc ce nouvel ordre religieux qui va devenir un outil très important de l'Algérie coloniale au service de l'Église, au service de la conversion, alors qu'il va être essayé dans la région de Kabylie. Et d'ailleurs, ça va donner lieu dans les années 1880 à une compétition entre les Pères Blancs et les écoles républicaines, justement, dont va sortir l'alphabétisation accélérée et record de la Kabylie. Ça va changer le visage définitivement de cette région.
Le Père Blanc est habillé comme un Kabyle, avec simplement un chapelet autour du cou.
Un chapelet, absolument, et aussi une croix. Donc c'est quelqu'un qui se fond dans le paysage, effectivement, auquel on demande de parler la langue arabe, ou surtout la langue berbère locale.
Après le demi-échec de cette expérience kabyle, d'ailleurs, les Pères Blancs vont se consacrer au patrimoine berbère, à sa valorisation.
Oui, cette politique de conversion, elle s'arrêtera dans les années 30, sur un échec, parce qu'il y a eu quelques milliers de conversions, mais néanmoins, elle a duré trois quarts de siècle.
Alors, d'un côté, le catholicisme, sauf dans ce cas kabyle exceptionnel, est quand même contenu. Les Européens sont invités, évidemment, à rejoindre les
C'est
prêtres.
C'est avant tout l'Église d'Algérie, une église pour Européens d'Algérie.
Et le pouvoir colonial s'intéresse de très près à cet islam enfoui que vous décriviez, et dont il se dit que même si les structures apparentes de pouvoir sont démantelées, il faut se préoccuper.
Oui, parce que tout d'un coup, il y a eu en Kabylie à nouveau l'explosion de la révolte de 1871, et c'est une révolte confrérique dite de Mokrani. Et là, l'administration s'est dit mais d'où sortent-ils ? Ils ont failli prendre Alger en 1871. Et donc l'administration lance des enquêtes dans tous les administrateurs coloniaux, dans la totalité des tribus et des régions d'Algérie. Ça va durer des décennies et on va se mettre à ficher. L'administration, elle sait ficher. Elle va ficher les croyants, les adeptes, les responsables religieux, les chaires de confrérie, tout le personnel, et elle va faire une cartographie, elle va placer les responsables sous sa tutelle, et elle va désormais surveiller de près et définitivement tout ce personnel confrérique, ce qui permet de faire des travaux incroyables, parce qu'on a une connaissance de l'intérieur des tribus et de ces confréries, pratiquement individu par individu, sur plusieurs générations.
Mais une fois qu'on a dégagé ceux qui pourraient être loyaux parmi ces responsables de confrérie, on les rémunère, on les encadre?
Alors, en ce qui concerne le personnel cultuel des villes, on y reviendra, il est rémunéré. Dans les tribus, où vit la 90% de la population, on le laisse s'enrichir grâce notamment aux pratiques confrériques, qui y rapportent, parce que la visite à la tombe, la ziyarat, la visite aux tombes des saints, etc., elle se paye de manière matérielle, notamment par les pèlerins, et là, on laisse s'enrichir les chefs de confrérie, mais qui ont un statut très important dans la société coloniale, rurale notamment, et en contact direct et permanent avec les administrateurs et les militaires.
Alors, il y a le pèlerinage à la Zaouïa, à la capitale des marabouts, enfin, au lieu des saints, tout près. Et puis, il y a le Hadj, beaucoup plus loin, vers la Mecque. Figurez-vous que la République affrète chaque année un bateau pour la Mecque.
Le gouvernement français et le gouvernement général de l'Algérie ont organisé cette année le voyage des pèlerins musulmans qui se rendent à la Mecque sur le tombeau de Mahomet. À Oran, Sikadour Ben Gabri, représentant Sa Majesté le Sultan du Maroc, assiste à l'embarquement. À l'escale d'Alger, de nouveaux passagers prennent place à bord et c'est au total 1500 pèlerins que le navire emmène vers la ville sainte.
À Alger, les pèlerins reviennent de la Mecque, à bord d'un navire spécialement frété pour eux. On sait que tout musulman doit se rendre en pèlerinage dans la ville sainte, au moins une fois dans sa vie. La France, fidèle à la mission coloniale qu'elle s'est tracée, se fait un devoir d'accorder toute facilité aux populations de l'Afrique du Nord pour la libre pratique de leur religion.
Je vous laisse la responsabilité de votre appréciation sur ces sons des années 30 que vous dites.
Oui, bah, ils sont irremplaçables, parce qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui sans entendre.
Mais dites-moi, année 1930, application de la loi de 1905, la loi de séparation. D'un côté, la République dit laïcité, en sautant sur son fauteuil à Paris.
Oui, mais Algérie française, mais à partir de 1907, il a été décidé que la loi de laïcité, on verrait dans 10 ans. Puis tous les 10 ans, on verra dans 10 ans. Et finalement, elle n'a jamais été appliquée. Il y a toujours eu une exception, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour un certain nombre de catholiques, notamment espagnols et italiens, qui sont mis sous surveillance.
Il est difficile d'abandonner aux musulmans la gestion de leur culte, mais il est difficile de renoncer à son contrôle. Alors, nous sommes dans les années 30. Il paraît que vous aimez les années 30. Il faut dire que c'est l'apogée ou le faux apogée de l'empire colonial. Vous allez être servi. On va aller à l'exposition de 1931 de Vincennes, présidée par Lyautey, ancien résident général au Maroc. Et voici une chanson irremplaçable de Géo Cogère. Léon Réter l'interprète et la musique est aussi signée par Vincent Scotto lui-même.
Viens, ma chérie, tu que nous allions à l'ex, à l'exposition. Pareil qu'on voit des choses à sensation à l'ex, à l'exposition. Toi qui aimes les voyages, c'est une affaire. Je te ferai faire tout le tour de la terre en allant de Vincennes à Charenton à l'ex, à l'exposition. Ça y est, nous y voilà, regarde le monde qui rentre. Allons voir le Maroc, j'adore cette nation. Tu verras des Fatmas qui font la danse du ventre et des chèques qui ne sont pas des chèques sans provision. Regarde ces chameaux et ces dromadaires, ça me fait penser à notre propriétaire. Je ne savais pas qu'il était en pension à l'ex, à l'ex, à l'exposition.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Vermeren, nous parlions de l'Algérie et de la politique religieuse de la République française dans les 3 départements d'Algérie. Alors on va passer maintenant au Maroc. J'adore cette nation.
Si vous permettez, tout à l'heure vous avez parlé effectivement de l'exposition coloniale. Il faudrait parler du centenaire de l'Algérie, l'année d'avant, 1830. Ouais. Et puis vous avez dit un bateau part vers la Mecque. Mais la France avait même acheté des hôtels à Jeddah et à la Mecque. Et c'était des bateaux qui partaient de tout l'Empire vers cette région. Donc
il y a eu longtemps un consulat français.
Très particulier, absolument, à Jeddah.
Oui, mais je ne veux pas vous priver du Maroc.
Ah, bien sûr.
Et puis si vous le permettez, je rappelle le titre de votre livre, La France en terre d'islam. Il vient de paraître chez Belin. Important. Absolument. Le Maroc, j'adore cette nation. Le mot nation, d'ailleurs, est utilisé là pour parler du Maroc, parce que c'est resté un État et une nation. Ce que n'avait pas réussi à constituer Abdelkader, ça existait depuis très longtemps au Maroc, quand la colonisation intervient tardivement et préparée longtemps.
Oui, parce que depuis le Second Empire, il y a cette volonté de faire un Maghreb français. Et le Maroc, c'est pas possible, parce qu'il y a trop d'ambitions européennes. Et donc, il faut attendre 1912 pour que la France, en quelque sorte, 1911-1912, pour que la France ait l'autorisation des grandes puissances de s'y installer, moyennant le régime de la porte ouverte. Et là, elle se retrouve à nouveau dans une configuration où il y a un sultan, des tribus, des confréries. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre le sultan dehors, comme elle l'a fait en Algérie, elle s'entend avec le sultan.
Alors, et le sultan est la porte ouverte. Vous voulez parler du rapport du sultan avec la sublime porte ?
Non, la porte ouverte, c'est le régime commercial libre. Mais la sublime porte, elle a disparu de notre affaire. Donc là, vous avez un sultan local au Maroc sur lequel Lyoté va s'appuyer pour conquérir le Maroc, le pacifier au nom du sultan.
Ouais, et enfin, lui, un sultan local, il détient une partie de la légitimité califale, non ?
Il est calife sur l'islam marocain, et c'est au nom de ce sultanat califat, si je puis dire, que l'armée française va pacifier le Maroc pour unifier toutes les populations musulmanes sous son autorité, puisque le sultan, durant la période coloniale, reste le chef de l'État marocain.
On peut laisser la parole un instant, si vous le voulez bien, au général Lyoté, qui deviendra maréchal et résident général au Maroc, tel qu'il est présenté dans un film, je suis heureux de citer la date, des années 30, Les Hommes Nouveaux de Marcel L'Herbier.
Et qui était commissaire à l'exposition de 1931.
Voilà. Et Claude Farrer avait fait le scénario de ce film.
J'ai pu approcher le plus puissant caïd du Sud. Il m'a chargé auprès de vous d'une mission confidentielle. Madani est excédé d'Ali Bah, qu'il opprime et qu'il pille. Si nous avançons sur Marrakech, lui et tous les caïds s'engagent à se porter à notre rencontre et à marcher avec nous contre Ali Bah.
Je ne marcherai pas sur Marrakech.
Pourtant, mon général, c'est le moment pour la France de...
Lieutenant, je fais de la politique indigène.
Prestige français.
Le prestige français, il exige que j'aille à Marrakech. Mais pour y rétablir le sultan, pour y mettre son drapeau avant le mien, j'irai. Mes larmes à la bretelle. Vous entendez ?
J'entends, mon général, mais...
Il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir.
Mettre le drapeau du sultan avant le mien. Alors, comment ça s'organise après la signature du traité de protectorat de 1912. Cette maxime donne lieu à quelles conséquences ?
Les conséquences, c'est que le sultan, bien sûr, est accusé d'avoir signé le traité de protectorat et se lève notamment dans le sud, El-Hiba, dont on vient de parler, un sultan concurrent, en fait, qui marche vers le nord et qui veut s'installer à la place du sultan et mettre les Français dehors. Et du coup, Lyoté est encerclé dans Fès, une première fois ses troupes, une seconde fois lui-même, et ils vont devoir marcher vers Marrakech pour défaire la troupe d'El-Hiba et maintenir en place le sultan qu'ils avaient choisi. Mais bon, ce sultan, évidemment, est discrédité. Ils vont très rapidement le changer, prendre un autre membre de la famille. Mais les ambitions du sultan du Sud sont mortes.
Il œuvre pour le sultan et il dit aussi qu'il faut laisser s'écouler sans filtre, je le cite, hein, la profusion de sacrés qui abonde au Maroc. Ça veut dire quoi ? Quelles conséquences pour les pratiques religieuses dont Lyoté pense qu'elles condensent l'énergie des vaincus et qu'il faut donc les respecter ?
Il faut rappeler qu'en Algérie, déjà en 1830, le premier acte des Français avait été de dire « liberté des pratiques religieuses ». Alors évidemment, au Maroc, un siècle après, c'est encore mieux, si je puis dire. D'autant plus que le protectorat, le Maroc reste un État étranger dont le chef d'État est le sultan. Or, le sultan, évidemment, est le chef religieux. Et désormais, la politique religieuse dépend de lui. Alors néanmoins, comme dans tous les autres domaines, la France va mettre son nez dans ses affaires. L'autorité religieuse du sultan et tous les pouvoirs religieux secondaires, les confréries qui sont extrêmement complexes au Maroc, les zaouias, les sanctuaires, etc. Les oulémas, tout cela va passer sous les fourches caudines sultaniennes et coloniales, avec des jeux de pouvoir complexes, mais néanmoins on laisse s'exprimer très librement la question religieuse au Maroc, évidemment parce qu'il n'y a pas du tout la contrainte de la République et de la départementalisation à l'algérienne.
Alors, vous avez parlé des chers, vous avez parlé des imams, des marabouts qui sont les saints des confréries. Vous avez prononcé un mot là, sur lequel on reviendra tout à l'heure, qu'on ne connaissait pas, les oulémas. Alors quelle est la différence ?
Les oulémas, ce sont les savants de l'islam, ce sont les docteurs de la foi et de la loi que l'on retrouve dans les grandes villes et notamment auprès des sultans à Istanbul ou à Fès. Et ce sont eux, théoriquement, qui dirigent l'islam sunnite urbain et qui sont les électeurs, en quelque sorte, du sultan, qui sont sa caution religieuse dans le gouvernement des affaires. Ils peuvent même, théoriquement, le destituer.
Ils ont été formés où, ces oulémas?
Ils ont été formés, dans le cas du Maroc, à Fès, à l'université islamique de la Karawiyine, de la mosquée des Kerouanais. Ils appartiennent à des grandes familles qui sont là depuis toujours et qui vont connaître une mutation très importante à l'époque française et même très légèrement avant, c'est-à-dire que ces oulémas vont être sensibles à l'idéologie nouvelle qui arrive du Proche-Orient dans tout le Maghreb et qu'on appelle bientôt le salafisme.
On en parlera tout à l'heure, mais restons dans les heureuses années 20 quand Lyautey est encore résident général. Vous insistez sur le fait que l'abolition du califat par Atatürk en Turquie en 1924, a eu des conséquences au Maroc, renforçant le rôle religieux de celui qu'on appelle maintenant le commandeur des croyants.
Absolument, parce que du coup, il n'y a plus de sultan à la tête de l'Empire islamique. Et à un moment, Lyautey et un certain nombre de personnages dans la République envisagent de faire du sultan du Maroc le calife occidental, puisqu'il y avait un calife oriental, un calife de l'Occident musulman. Cette politique, au fond, elle ne va pas fonctionner. Néanmoins, les tentatives seront récurrentes, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et ça continue dans les années 20 un petit peu.
Respect de l'islam. Tout à l'heure, quand on parlait de l'Algérie, Pierre Vermeeren, vous nous avez dit que les missions catholiques, sauf en Kabylie, avaient été contenues. Qu'est-ce qu'il en est
au Maroc.
Lyautey est pourtant un catholique, mais il va refuser les congrégations.
Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que Lyautey est catholique de culture? Mais il n'est pas très croyant, vous savez, il n'est pas très intéressé. Il est surtout traditionaliste, conservateur. Il aime la religion parce que c'est un principe d'ordre. Mais il ne veut pas entendre parler des missionnaires au Maroc. Et il leur interdit l'accès du territoire, que ce soit pendant la conquête ou après. Et tant qu'il est là, il n'y a pas de missionnaires au Maroc.
Est-ce qu'il est partisan de l'apostolat muet tel qu'il se met en place un petit peu avant la guerre de 14, d'une façon exceptionnelle, dans le Sahara, avec le père de Foucault. C'est-à-dire que la conversion de l'islam, elle n'est pas l'œuvre du prosélytisme, mais peut-être, si un jour elle a lieu, d'une charité rayonnée par les âmes les plus transparentes, les plus anéanties.
Écoutez, Charles de Foucault était un excellent connaisseur du Maroc, puisqu'il l'avait parcouru seul, déguisé en rabbin, pendant 2 ans au XIXe siècle, et il a fait des offres de... Il ne faut pas oublier que c'est un ancien officier. Il avait fait des offres de service à Lyautey dans la perspective du protectorat. Lyautey lui a dit, restez en Algérie, je veux pas vous voir. Donc, Non, Lyautey ne veut surtout pas déstabiliser religieusement le Maroc. Il considère que tout son édifice est bâti sur la commanderie des croyants et le fait que le sultan dirige les musulmans.
Et quand plus tard, en 1930, les catholiques d'Afrique du Nord, vous parlez de leur impatience permanente, réussissent à organiser à Carthage, en Tunisie, un congrès eucharistique qui consiste à affirmer à la face du monde « Nous allons restaurer l'Afrique chrétienne de Saint-Augustin ». Quel effet ça produit?
C'est un effet bien sûr terrible, qui est très mal perçu, très mal compris sur le moment, mais à long terme, c'est le tournant. Hein. 1930, c'est le tournant. Il se passe aussi le centenaire d'Algérie, il se passe les événements du Maroc, du Dahir berbère. C'est à la fois le point culminant de la catholicité française en Afrique du Nord, et c'est le début de la fin, puisque quelques années après, les Pères Blancs abandonnent la mission.
Le début de la fin. Quelqu'un l'avait prévu très en amont. J'aimerais vous faire identifier l'auteur des propos qu'on va entendre maintenant. Peut-être même allez-vous pouvoir les dater. C'est un homme politique français, aux vues peut-être prémonitoires.
Ce sont tous ces peuples de toutes les races qui, jusqu'ici inertes ou qui le paraissaient, qui semblaient pour nous couchés dans un sommeil éternel, qui aujourd'hui se réveillent, réclament leurs droits, affirment leurs forces. Et c'est dans notre Afrique du Nord un réveil aussi, un frémissement qu'il serait bien imprudent de dédaigner ou de négliger. Et je dis que pour le peuple qui aurait eu le courage, la sagesse, la généreuse clairvoyance de ne se livrer nulle part à une politique de conquête et d'expropriation brutale, pour ce peuple-là, il y aurait eu chez toutes ces races qui s'éveillent et veulent leurs droits une force de sympathie qui était une puissance réelle.
Vous dites 1930, c'est le début de la fin, mais la fin est prévue dès le début. Là, c'est un discours de 1908.
C'est Jaurès.
C'est Jaurès, qui a toujours été un adversaire de la
conquête. Oui, mais vous savez, il faudra un jour faire un livre sur tous les prophètes de la colonisation française. Depuis le 19e siècle, depuis Tocqueville, il y a toujours des gens qui ont compris que ça ne durerait pas et qu'on était mal embarqués. Clémenceau, enfin, la liste est très longue, elle ne s'est jamais arrêtée. Dans les années 50, ce sont souvent des religieux catholiques, notamment. Voilà, donc cette vision du réveil de l'islam, du réveil des peuples coloniaux, elle a précédé le réveil, effectivement. Et c'est une vision, on peut considérer un peu comme prophétique, mais elle est bien ancrée dans une minorité, parce que la masse coloniale est aveugle à cela.
Jaurès disait que certains dans l'islam pensent que l'islam ne se sauvera qu'en se renouvelant, en interprétant son vieux livre religieux. Et d'autres, Jaurès les appelait les fanatiques de l'islam, n'attendent que la justification d'en découdre par les brutalités de l'Europe. Comment s'organise, et notamment sur le plan religieux, chez les personnalités et les élites religieuses, le mouvement nationaliste à partir des années 30, au Maroc, en Algérie, ailleurs?
Il y a plusieurs composantes au mouvement national. Il y a une composante politique très, très classique pour nous, parce que c'est à la française, je dirais, sur le modèle culturel et politique français. Et puis, il y a une composante religieuse qui va naître dans ce qu'on appelle le salafisme aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un mot valise qui ne veut plus rien dire, mais malgré tout, à l'origine, le salafisme tel que l'invente Abdou en Égypte à la fin du 19e siècle, c'est la réforme de l'islam, l'islah, et c'est sur cette base de réforme de l'islam, de retour à l'islam des origines, donc l'islam des salafs, des compagnons du prophète, que va être reconstruit... alors pourquoi dans l'Égypte? Parce qu'il n'y a plus de sultan. L'Égypte, elle est coloniale, elle est britannique. Les oulémas retrouvent leur liberté d'interprétation.
Les oulémas dont vous nous parliez tout à l'heure.
Absolument, ils retrouvent leur liberté.
Qui peuvent être formés au Caire...
viennent à Paris
à
aussi,
Damas,
viennent, voilà, absolument.
Comme à Fès.
Et ils retrouvent leur liberté et ils vont reprendre le débat tel qu'il s'était arrêté au Moyen-Âge musulman, pratiquement. Et ils vont dire, voilà, quel est l'islam de demain? Qu'est-ce que nous voulons? Comment on reconstruit la cité islamique? Est-ce qu'on va devoir rechercher un nouveau sultan, un nouveau calife, pardon, ou pas, etc. Et c'est cette renaissance de l'Égypte, elle va gagner le Moyen-Orient d'une part, elle va gagner l'Afrique du Nord, dans la... toute la première partie du 20e siècle. La création des oulémas musulmans d'Algérie date de 1931. La Karawiyyin, la mosquée de Fès dont on parlait tout à l'heure, elle est touchée par le salafisme dès les années 20. Et les hauts personnages près du sultan sont salafistes, etc. Et là, c'est la même chose à Tunis. Et c'est une composante incontestable du nationalisme qui veut renaître dans sa tradition culturel et dont l'islamisme actuel est un lointain héritier, même s'il a subi plusieurs mutations génétiques. On peut dire notamment la naissance des frères musulmans en 1928.
Leçon, Pierre Vermeeren, de votre grande étude sur la France en terre d'islam. Bon, c'est un peu banal ce qu'on va dire. Le catholicisme est divers. Il y a une grande différence entre le père de Foucault et le congrès eucharistique de Carthage triomphant de 1930. L'islam n'est pas un et immuable.
Non, c'est une évidence. Il faut historiser l'islam parce que, ne serait-ce qu'à l'époque coloniale, la France, dans son empire, et pour en rester au Maghreb, elle a fréquenté des islams, des périodes... Et l'islam, vous savez, d'aujourd'hui, et la société musulmane d'aujourd'hui qu'on observe en Algérie et au Maroc, elle n'a strictement rien à voir, ni du point de vue des pratiques, ni du point de vue de la visibilité, ni du point de vue de la foi de ce qu'était l'islam dans les années 20 ou dans les années 30.
Empire colonial et religion, donc votre nouveau livre aux éditions Belin. À la technique, Hélène Langlois, la réalisation, c'est Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Clara Garçon dans l'équipe de la Marche de l'Histoire.